Et là, il y avait une poignée de gauchistes qui savaient exactement ce qui était bien pour la femme et comment la femme devait se libérer. Et donc, ils étaient très...
Gauchistes mâles ou gauchistes femelles ?
Gauchistes mâles. Les gauchistes mâles...
Ils savent toujours mieux que les femelles, ceux-là. Ils
savaient toujours mieux que les femelles et savaient exactement comment les femmes devaient se libérer. Et donc, dans la partie rock de Transistour, il y avait une poignée de femmes qui, ou de filles, comme dirait Francine, qui ne se posaient même pas la question de savoir pourquoi elles étaient là, qui adhéraient à la musique comme les autres, qui braillaient pendant les concerts comme les autres, qui buvaient des coups comme les autres, et qui, à un moment, étaient interpellées par le fait qu'on leur explique que ce qu'elles faisaient, ce n'était pas très militant et très féministe, si tu veux, et qu'on n'aurait jamais dû accepter de marcher dans ces plans-là. Je me rappelle notamment d'une affiche avec une pépette des années 60 à cheval sur une banane, toute chose que je trouvais résolument rock'n'roll, et qui a été décrétée nulle et non avenue et antiféministe au dernier degré, et qui a été arrachée des studios. Et on m'a fait un sermon pour m'expliquer, Véro, toi qui es une femme, dans ces années-là, tu devrais comprendre à quel point c'est machiste. Et moi, j'ai pas compris. Donc c'était une des raisons de la dissension qu'il y a pu y avoir après, si tu veux. À partir du moment où un mec prétend me donner des leçons pour m'expliquer comment je dois fonctionner, forcément, moi, qui ne suis pas féministe, je me rebelle. Donc tout était comme ça. Après, le rock'n'roll, c'était pas assez à gauche. Le rock'n'roll n'était pas résolument engagé. Le rock'n'roll ne respectait pas des principes. Les punks, c'était n'importe quoi. Donc c'était pas dans le trip militant. Donc c'est pour ça qu'il y a eu scission, en fait. Et moi, je leur en veux terriblement de cette scission parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre que chacun avait son expression et que tu pouvais être engagé en ayant une expression différente de l'expression tradie, quoi.
En fait, c'est comme les Beatles avec Yoko Ono, c'est les filles qui ont foutu la merde, quoi.
C'est toujours comme ça. L'histoire de France le prouve bien.
Ah ben non, c'est pire que ça, puisque le réseau de bien-pensants, on va dire, les maîtres du lieu, ont estimé que notre action étant pas du tout en accord, en adéquation avec les idées et ce qu'ils voulaient en faire, il fallait tout simplement qu'on dégage. Donc comme la démocratie n'a pas fait qu'on a été dégagé par le jeu des votes et des trucs comme ça, ils sont venus en pleine nuit, ils ont enlevé tout le matériel qu'il y avait, et puis ils sont partis avec. Donc un matin, on est arrivé dans les studios, il n'y avait plus rien. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc les gros mots, si tu veux, c'est parce qu'après, on les a un peu cherchés. On a cherché le matériel, on a un peu cherché les mecs.
Ce matériel, il appartenait à tout le monde, il appartenait à l'association, vous aviez payé.
Il appartenait à tout le monde, il appartenait même en partie à pas mal de rockers qui avaient mis des billes dedans et qui avaient prêté de l'argent, oui.
Et vous les avez retrouvés ?
Alors, on les a retrouvés, mais alors, plusieurs années après, puisque quand on a eu des problèmes de fréquence, ça devait être en 85-86, on a récupéré le matériel de Transistour qui était devenu entre-temps Alice FM avec notre matériel et qui a déposé le bilan. Et du coup, on a négocié avec le président d'Alice FM pour récupérer le matériel qui, quelque part, revenait à la structure qui pouvait continuer, quoi.
Transistor, ça démarre quand ?
Moi, je dirais en 78 ou un truc comme ça. Ils ont démarré vraiment avant la libération des ondes. Et donc, ils étaient dans vraiment dans un trip alterno.
Pirate,
roots, fallait se déplacer, etc. Donc, ils ont vécu quand même quelque chose de très, très fort. Et on peut leur concéder qu'ils ont quand même largement contribué à la libération des ondes.
C'est eux qui faisaient le tour du boulevard Orteloup ou ailleurs, qui avaient l'émetteur ambulant dans la voiture, hein.
Bah, ils ont fait des plans comme ça, ils ont fait plein de plans routes comme ça. Ça, on ne peut pas leur retirer ça, ils se sont battus et c'est grâce à des gens comme ça qu'on a eu l'autorisation d'émettre les uns et les autres en 80, hein, clairement.
Donc ce putsch, on va appeler ça comme ça, il a lieu quand ?
Moi je dirais 84, puisque c'est à l'issue du putsch qu'on a décidé de monter béton, parce que quand on s'est retrouvés comme des cons, sans matériel, mais avec plein de gens qui avaient envie de continuer, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Donc on s'est réunis et on a dit on va mettre chacun des thunes sur la table, on va racheter du matériel et puis on va continuer à émettre et puis fuck off. Donc c'est pour ça qu'on a émis du garage, parce que quand on a réuni les fric, qu'on avait à peine de quoi acheter un émetteur et puis une table de mixage, donc il était hors de question qu'on ait des locaux ou des choses comme ça. C'est pour ça que pendant 6 mois on a démarré dans le garage jusqu'à ce qu'on trouve un accord avec l'amphi, avec Jean-Pierre Lyon, qui nous a hébergés dans l'amphi qui est l'actuel bateau ivre.
We'll be right back.
Through the Grapevine, reprise du standard de Marvin Gaye, signée des Slits, des filles du rock'n'roll, en hommage aux premières filles de Radio Béton, dont Francine et Véro, des pionnières de notre radio garage.
La libération des ondes en 81, ça ressemble un petit peu à ce qu'a été Internet il y a 10 ans. Quoi. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'on pouvait s'exprimer et être entendu par les autres, même pour des choses qui n'avaient pas voix sur les médias traditionnels. C'était un média libre. Vraiment.
Mais pour l'auditeur, c'est quand même un côté magique, justement, de ne pas écouter toujours les mêmes grandes ondes. Et là, c'est vrai que c'est, toutes ces radios libres, notamment Béton, c'était quand même... Il y avait une super programmation au niveau musical. C'était des galettes qu'on entendait nulle part ailleurs, quoi. Ça, c'est clair. Hein.
C'est pour ça que je dis que c'est exactement comme Internet, en fait. Tu vois, quand Internet n'existait pas, les radios libres, ça a été la seule façon qu'on avait de promouvoir de la musique et de faire écouter de la musique que tu avais envie d'entendre et que tu n'entendrais jamais à la télé ou dans les radios classiques. Donc c'était vraiment une façon de pouvoir communiquer et de faire connaître une culture alternative. Moi, je vois ça comme ça. Et Internet, actuellement, ça promeut pas seulement une culture alternative, mais ça permet cette libération et cette circulation de tes passions, de tes coups de foudre. Tu vois, ça permet à des tas de gens de se faire connaître qui ne se seraient jamais fait connaître sur des supports classiques.
Est-ce que vous aviez l'impression de faire de la politique ?
Oui, je pense, oui. On était quand même engagés. C'était pas conventionnel, forcément. On mettait vraiment des choses... Et puis, on était toujours pirates. Oui, bien sûr. C'est un grand souffle, quoi. Enfin, bon, après, libre, quoi. Libre de tout, libre de... Comparativement à ce que la jeunesse vit aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir, quoi. On se permettait tout.
Pour moi, ça évoque surtout, musicalement, les mouvements alternatifs.
Bah oui.
Quand tu dis, est-ce qu'on était engagé politiquement ? Pour moi, on l'était à fond, mais pas avec les méthodes conventionnelles, justement. Qui régnait à Transistour, c'est-à-dire pas en tenant des discours barbants sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire, le changement de société mou et didactique, mais sur un changement par la force et nous on va sortir dans la rue et le changement vous allez l'avoir dans la gueule. Et c'est quand même là, l'époque des punks, enfin, ou post-punk parce que les pros du truc diront que les punks c'était en 70 ou en je sais pas quoi, mais bon, à Tours, en tous les cas, ou en France, dans les années 85, il y avait un gros mouvement quand même, Nos Futurs, qui avait un engagement politique à travers Nos Futurs.
Un engagement politique plutôt très 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 à gauche. J'aime bien la qualité de ce silence.
Oui, si être à gauche, c'est être ne pas être d'accord avec les privilèges, ne pas être d'accord avec les gens qui s'engraissent sans arrêt, ne pas être d'accord avec le fric, avec la politique des banques et des choses comme ça, c'était déjà en 85, il y avait déjà plein de gens qui gueulaient contre cette société de consommation, qui gueulaient contre les élites, qui gueulaient contre cette espèce de cadre de gens qui pensaient qu'au fric, contre cette société qui était complètement hiérarchisée et qui laissait aucune place aux gens qui n'étaient pas dans le truc. Si t'étais pas avec ton complet veston cravate, encore plus en 85 qu'aujourd'hui, c'est que t'avais raté ta vie. C'était même pas j'ai pas de Rolex, j'ai raté ma vie. C'était j'ai pas un job, je suis pas personnel d'encadrement. C'est une société où pour réussir, il fallait gagner du pognon. Ça a toujours été comme ça. Donc cette mouvance alterno qui justement revendiquait un espèce de genre dérangeant, un look agressif entre guillemets, parce que c'était plus fun souvent qu'agressif, quoi. Moi je trouve que c'était une façon de remettre les choses en place, et puis comme il y avait beaucoup de gens qui étaient comme ça, tu t'affirmais comme un nouvel espace, quoi.
Si vous êtes séduisant et en bonne santé, impulsif mais pas trop, plus pragmatique que cérébral, plus intuitif que cartésien, Si, comme Bernard Tapie, vous pilotez vous-même votre propre avion, si vous êtes encore plus casse-cou que timoré, plus cynique qu'idéaliste, bref, si vous avez un tempérament d'aventurier et si vous êtes capable de tout risquer pour tout gagner, alors vous êtes peut-être déjà, ou vous serez peut-être un jour, un vrai faiseur de thriller.
Rien à foutre, Mélopée signé Robert Kampf, toute droit sortie des années 80. On en parle de ces années 80 avec Francine et Véro, deux fondatrices de Radio Béton, toujours dans le garage qui fut le studio de Radio Garage. Alors ces années 80, pas très drôles, la crise, la droite très très droite, l'extrême droite. Est-ce que c'est pareil aujourd'hui et est-ce que rien n'a vraiment changé dans le fond ?
Non, moi j'ai pas l'impression que c'est la même chose. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est un cycle. J'ai l'impression que c'est la lente dégradation de ce qui s'était amorcé en 85. Tu vois, à titre d'exemple, moi j'étais en fac. Quand j'ai commencé Transistour et tout ça, j'étais en fac d'économie. On discutait des échelles des salaires et on trouvait que c'était pas normal parce que les échelles des salaires étaient de 1 à 20. Je me rappelle très bien de mes cours de sciences éco en deuxième année, c'était de 1 à 20. Maintenant, c'est de 1 à combien ? De 1 à 100 ? De 1 à 150 ? Je ne sais plus, ils l'ont dit l'autre fois à la télé, je ne m'en rappelle plus, quoi. Mais je pense que cette échelle des salaires, le trou s'est encore creusé, quoi. Ça a continué à dévaler la pente.
Actions, stock-options, gros salaires, les patrons gagnent toujours aussi bien leur vie. Des chiffres. Selon l'enquête du mensuel Économique Capital, les 50 patrons les mieux payés de France ont vu leurs revenus augmenter 3 800 000 euros par an en moyenne pour les mieux payés. C'est l'équivalent de 316 ans de SMIC.
Est-ce que dans ces années-là, quand vous causez dans le poste, est-ce que vous avez l'impression que vous contribuez à changer la société ? Est-ce qu'il y a cette envie-là ou est-ce que c'est juste pour du fun ?
Non, il y a forcément des messages, mais non, c'était plus pour le fun. Je l'ai vécu comme ça. On n'était pas engagé, c'était pas ciblé.
Moi, je pense que si Béton s'est monté, c'est quand même une forme d'engagement pour tous les gens qui l'ont monté. Après qu'on ait trouvé du plaisir à le faire, du plaisir à être ensemble, et puis que ça soit devenu fun de faire de la radio ensemble et de s'amuser, de boire des coups ensemble, ça c'est clair. Mais au départ, c'était quand même une envie de changer les choses, et une envie de ne pas être comme tout le monde, et une envie d'affirmer ce que tu avais à l'intérieur de toi, quoi, ce que tu pensais vraiment, et puis aussi l'envie d'appartenir à un groupe qui ne soit pas un groupe politiquement identifié, avec un programme, avec des trucs comme ça, mais avec te rassembler avec plein de gens qui avaient un peu ta façon de voir les choses. et qui pensaient que c'était dans la Provo aussi que tu faisais avancer les trucs, que c'était en disant les choses que tu pouvais permettre la discussion. Enfin, il y avait quand même tout ça derrière, quoi, clairement.
Louis Schweitzer, l'ex-PDG de Renault, arriverait en tête avec près de 12 millions d'euros de revenus. Les salaires des PDG ne sont plus qu'une faible part de leurs revenus. Les stocks options, mais surtout les dividendes versés aux dirigeants actionnaires, représentent désormais la plus grosse part de leur fortune.
Les patrons, c'est comme les cochons. Ça ne mérite, oui, qu'une volée de plomb. Et la seule chose que ça sait faire, c'est de voler ses propres frères. Alors arrête. C'est comme les cochons, ça ne mérite que la pendaison. Ce sont des gens sans foi ni loi, des mouches à merde qu'on n'a pas. Alors arrêtons de nous laisser faire, soyons plus forts, oui, que la misère. Crois-moi et tu les verras naître pour une poignée de billets verts.
Les patrons, chantés par les Salles Majestés. N'empêche que pour aller les voir, les patrons, et leur demander des sous pour les activités autour de Radio Béton, bah, y avait Francine.
Oui, enfin, alors là, je ne sais plus dans quelle année on est, mais effectivement, y a eu des gens qui nous ont soutenus. Moi, je me rappelle notamment avoir été voir Donagneau de Lefabre. C'était le premier qui nous a...
Déjà ?
Oui, déjà. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Mais bon, il a été... Bref, c'est... Bon, bah, il nous a fait, une lettre de soutien. Et puis bon, bah après, je suis allée voir Marie-France Beaufils, je suis allée voir après plus des grandes maisons de l'époque. Donc, il y avait le Petit Paris. On se démenait pour obtenir au moins un soutien des politiques. Et puis, il y avait aussi l'EDF qui nous a quand même bien aidés à cette époque-là.
Enfin, moi, je dirais qu'il fallait quand même avoir beaucoup de courage à cette époque pour aller voir des gens, pour aller vendre un projet, une radio dont le nom était Punk. Pour une nouvelle culture et dont l'image était résolument destroyée, quoi. Donc quand t'allais voir des gens, moi je me rappelle qu'avec Francine on allait de temps en temps faire du démarchage pour trouver de l'argent pour Ocar, puisque Ocar a commencé la même année qu'on a créé la radio. Et je me rappelle avoir rencontré des gens qui nous disaient: mais pourquoi on donnerait de l'argent pour un public qui va de toute façon nous crever nos chaises avec des couteaux, tout nous sanguiner, ou des gens qu'on n'a pas envie de voir, quoi. Donc, c'était pas simple.
Ah ben non, ça, c'était pas simple, c'est sûr. Il a fallu travailler au corps, comme on dit.
Mais cela dit, avec quelques succès.
Ah ben oui, parce que ça, c'est quand même la première année. On a quand même eu, moi, je me souviens plus, j'ai pas les chiffres en tête, mais on a eu pas mal d'argent, quoi, qui ont permis de faire venir des groupes, quoi. Pas que locaux, hein, on avait fini quand même des gens...
Donc vous alliez démarcher des politiques, des EDF, des trucs comme ça, alors que la radio était toujours pirate, parce qu'elle a été légalisée en 90.
C'était plus pour Ocar, et pour Ocar, il y avait une communication en termes d'affichage et de choses comme ça, et ce qu'on vendait, en fait, c'était la présence sur les affiches, c'était l'association, tu vois, qui soit associée à un événement, qui soit associée à un concert, et il y a des gens que ça amusait. Oui, on a trouvé des gens comme le Petit Paris, Monsieur L'Enfant. C'est quelqu'un qui, même s'il s'occupait d'une grosse boîte, parce qu'à l'époque, le Petit Paris, c'était rue Nationale, c'était un énorme magasin, il avait cette espèce de truc derrière la tête qui faisait que ça l'amusait, quoi. Ça l'amusait de provoquer aussi, et puis de rentrer là-dedans. Et puis, il n'était pas complètement idiot. Il savait que c'était quand même les jeunes qui venaient acheter dans son magasin. Mais il fallait passer quand même ce pas, quoi. Il l'a fait.
Ils ont tiré un bénéfice, tous, parce que même politiquement, après, c'est les futurs électeurs. Enfin bon, c'est, ça va de pair, quoi. Ils le savent bien.
Le parti de la jeunesse !
délicatesse de la souris déglinguée et son parti de la jeunesse pour parler de celle de Radio Béton de jeunesse, à l'époque où Radio Béton s'appelait pas encore Radio Béton mais Radio Garage. On l'a vu, cette création est le résultat d'une violente scission entre des animateurs de Radio Transistor. On est en 1984 et pour caricaturer, la tendance gauchiste jazzeux de Transistor, débordée par les rockers insolents, monte un putsch et fait main basse sur le matériel de la radio, privant momentanément les rockers d'antenne. Vous allez faire maintenant la connaissance de Pascal. Et pour Pascal, acteur de cette époque, au-delà de cet événement, c'est tout un symbole de changement. Des années 70 aux années 80.
Je vais être un peu sérieux là, je m'excuse. Je crois que la fin de Transistor, ça a été un petit peu la fin du gauchisme. Le Transistor, ça a été... Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que Transistor a été monté en 78, j'y étais... Donc c'était tout un tas de gens...
C'était rue Lamartine, c'est ça ?
Rue Lamartine, ça a été en 1980, hein, la légalisation. Non, en 78, c'était le mouvement des radios libres, des gens qui sont regroupés, beaucoup effectivement d'anciens gauchistes, mais qui venaient plutôt des Mao ou choses comme ça. Transistor a été monté donc, par une bande de gens, beaucoup d'anciens gauchistes, quelques autres qui venaient plutôt des milieux un peu plus libertaires. Et donc, Transistor, on a vécu pendant 3 ans sous la prohibition, c'est-à-dire avec des émissions clandestines, on se faisait brouiller. C'est vrai qu'à l'époque, la bande FM était beaucoup moins polluée que maintenant. Il y avait de la place. C'est vrai qu'avec un petit émetteur de merde qui faisait 10 watts, on émettait jusqu'à Mont-Louis. On émettait donc en voiture. Et ensuite, on passait les émissions. Oh, c'était une demi-heure ou une heure par semaine. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui écoutaient. De toute façon, on était complètement brouillés. On avait un émetteur de merde qui émettait sur 3 ou 4 fréquences à la fois. Et je me demande d'ailleurs si le vendredi soir, les avions pouvaient atterrir à l'aéroport, parce qu'il paraît qu'on dégueulait de partout. Et on arrivait même à avoir 3 brouilleurs contre nous sur 3 fréquences différentes le soir. Dans notre système, c'était très simple. C'est-à-dire qu'on avait un petit couple gentil, propre sur eux, avec une belle voiture, qui eux avaient l'émetteur dans la voiture avec une antenne d'autoradio classique sur le toit, quoi. Et autour, il y avait 3-4 bagnoles avec des chevelus, des bagnoles, des 403, des 4L avec des autocollants Larzac et antinucléaire partout. Et dès qu'on voyait les flics, toutes les bagnoles et les chevelus se barraient en courant. Et le petit couple gentil dans la belle voiture coupait juste l'émetteur. On s'est fait contrôler plusieurs fois, mais on ne s'est jamais fait piquer l'émetteur.
Moi, je voulais juste ajouter que là, c'est un scoop que je vous réserve depuis pas mal d'années. Alors, je tairai mes sources, mais j'ai un relevé d'écoute de Radio Transistor par un bon citoyen qui envoyait à la police son rapport d'écoute de Radio Transistor dans les années 79-80. Ils ont émis de telle heure à telle heure, ils ont dit ça, machin, et bon.
Alors, ils se disaient des choses vraiment épouvantables sur cette antenne ?
Ah, sans doute, je sais pas, je l'écoutais pas.
Ainsi s'achève le premier épisode de Radio Garage 1984. Ne ratez pas du gauchisme au punk rock, le second épisode de cette fabuleuse saga.
Come on. désirerais avoir de la musique.
Mais attends, cherche mon morceau qui passe à la radio.
Sur HDR. HDR 99.1 à Rouen.
Groovy, groovy, jazzy, funky, bounce, bounce, dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips the MC.
HDR.
Si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer.
Je vous dis que j'aime pas le rock.
Ah non, j'aime pas le rock, alors j'ai